émission radio
L'Inforgen Bruxelles.
Bonjour à tous, vous écoutez la Jury Click sur Radio Panique 105.4. Alors on est aujourd'hui le 23 janvier, donc le mois des résolutions. Mais il est vrai que la fin du mois de janvier peut aussi parfois rimer avec l'abandon des études. Alors que ce soit parce que la session de janvier ne s'est pas déroulée comme prévu, qu'on se rende compte qu'on n'a peut-être pas choisi la bonne orientation, ou encore parce qu'on a simplement d'autres projets qui finalement prennent le dessus, nos informateurs ont remarqué que l'arrêt des études entraîne souvent la même question. Mais si je ne suis plus étudiant, c'est quoi mon statut? Alors on va essayer de répondre à cette question tout au long de cette émission. D'ailleurs, cette émission ne se concentrera pas uniquement sur les étudiants qui abandonnent leur cursus en cours d'année. La question du passage du statut étudiant vers autre chose se pose aussi en septembre, en début d'année scolaire, lorsqu'on choisit de ne pas reprendre d'études et de faire autre chose. Pour répondre aujourd'hui, j'ai avec moi autour de la table deux de nos informatrices, Dayuma et Mélanie. Salut.
Salut.
Qui vont se charger d'aborder toutes les questions des droits liés à ce fameux statut étudiant, les allocations familiales, le droit au CPS, la possibilité de signer un contrat étudiant ou non, le statut de la mutuelle ou encore les impôts. Ensuite, Anne. Salut Anne.
Salut Juliette.
Qui est conseillère en orientation chez InforJeune, est aussi avec nous ce matin parce qu'elle abordera plutôt la question de quoi faire si on ne fait plus d'études. Donc par exemple, quels sont les projets alternatifs qui s'ouvrent aux jeunes, quelles sont leurs possibilités, et on fera aussi un petit point sur l'état d'esprit et les pressions que les jeunes qui choisissent des trajets alternatifs peuvent parfois subir. Avant de se lancer dans le vif du sujet, on va aussi dire un petit bonjour à Thomas. Salut.
Salut Thomas.
Salut Thomas.
Qui s'occupe de la régie aujourd'hui. On démarre tout de suite avec Mélanie et Dayuma qui vont tout d'abord aborder la question des liens entre statut étudiant et droits sociaux. Mel.
Alors oui, on va parcourir tout ça point par point, mais avant tout, on tenait à préciser quelque chose qu'on répète assez souvent chez InforJeune, à savoir le statut étudiant n'existe pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un statut à part entière, qu'on a ou qu'on n'a pas. Le statut étudiant existe toujours par rapport à un contexte ou un droit. Donc par exemple, on va le voir tout de suite, les conditions pour être reconnu étudiant pour les allocations familiales, ce ne sont pas les mêmes que pour pouvoir jobber comme étudiant ou encore bénéficier de réductions étudiants au cinéma du coin. Ce n'est pas parce que je suis inscrite dans une université que j'ai automatiquement le statut étudiant pour tout. Si j'ai 26 ans, je ne serai pas reconnue comme étudiant au niveau des allocations familiales, comme ce droit n'existe plus après 25 ans. Par contre, rien ne m'empêche de signer un contrat de travail étudiant si je réponds aux conditions liées au job étudiant. Bien garder en tête que ce fameux statut étudiant doit être questionné droit par droit, et c'est ce qu'on va faire maintenant.
D'accord, alors dans ce cas, je propose de démarrer par une des choses qui préoccupe souvent les jeunes et leurs parents, à savoir le droit aux allocations familiales. Est-ce que c'est possible de garder ces allocations familiales quand on n'est pas étudiant, Dayuma ?
Ouais, alors tout d'abord, je précise que le droit aux allocations familiales a été régionalisé. Ça veut dire que les règles sont différentes si on est domicilié en Flandre, en Wallonie, en communauté germanophone ou à Bruxelles. Donc ici, on se concentre sur Bruxelles comme toujours. Et donc, à Bruxelles, le mineur qui a un titre de séjour a d'office droit aux allocations familiales, qu'il aille à l'école ou pas. Le majeur peut aussi avoir droit aux allocations familiales, mais à certaines conditions que l'on peut résumer comme ça. Soit il suit des études ou une formation reconnue qui comprend un minimum d'heures de cours ou de crédits, soit il s'inscrit comme demandeur d'emploi en stage d'insertion professionnelle chez Actiris. Donc, concrètement, un jeune qui arrête, abandonne ses études a encore droit aux allocations familiales s'il s'inscrit comme chercheur d'emploi en stage d'insertion professionnelle. Attention, ce droit est valable pour une période de 1 an, éventuellement prolongeable si le stage se prolonge, et uniquement pour les trimestres pendant lesquels il travaille maximum 240 heures. Donc, ça veut dire que s'il travaille plus de 240 heures sur un trimestre, alors il perd son droit pour ce trimestre-là. Et puis évidemment, comme on l'a déjà dit, qu'on soit étudiant ou demandeur d'emploi, le droit aux allocations familiales prend fin à l'âge de 25 ans.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce qu'est le stage d'insertion ? Parce qu'on ne répète jamais assez, non ?
Ouais. Le stage d'insertion professionnelle, en fait, ce n'est pas vraiment un stage comme on l'entend quand on est étudiant, par exemple. C'est en fait une année après les études, pendant laquelle le jeune est inscrit chez Actiris comme chercheur d'emploi, ou éventuellement il travaille déjà à temps plein s'il a déjà trouvé un travail. Au bout de cette année, le jeune peut, dans certaines conditions, ouvrir un droit à des allocations d'insertion, c'est-à-dire à un chômage sur base de ses études. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe pendant cette année ? Le jeune demandeur d'emploi va être aidé par Actiris dans sa recherche d'un travail, mais Actiris va aussi l'évaluer à deux reprises pendant l'année sur son comportement de recherche d'emploi. Ça veut dire qu'Actiris va voir s'il cherche effectivement bien un emploi, s'il met des choses en place pour s'insérer sur le marché du travail et s'il collabore avec les services d'Actiris. Donc par exemple, pendant le stage, on cherche un travail ou on peut aussi en plus suivre une petite formation pour avoir des compétences supplémentaires ou alors on peut encore faire des stages rémunérés. Donc tout ça en fait dans le but de se faire une expérience et de finalement trouver un travail. Si le jeune obtient deux évaluations positives, il peut à la fin de cette période de stage introduire une demande d'allocation d'insertion. Et donc c'est ça cette allocation de chômage sur base des études. Et donc elle est vraiment destinée aux jeunes qui ont cherché du travail mais qui n'ont pas assez travaillé pour ouvrir un droit au chômage classique pour lequel il faut travailler un certain nombre de jours. Une fois que le jeune a la possibilité d'ouvrir ce droit aux allocations d'insertion, alors il n'a plus droit aux allocations familiales. S'il obtient une seule évaluation positive cette année-là, il pourrait prolonger ce stage d'insertion pour demander une nouvelle évaluation. Et dans ce cas, le droit aux allocations familiales se prolonge aussi d'une durée équivalente à la prolongation de son stage d'insertion.
Alors, est-ce que c'est obligatoire de s'inscrire chez Actiris et de faire le stage d'insertion quand on décide d'arrêter ses études ?
Non, c'est pas obligatoire en fait. Mais comme on en a parlé, ça a des avantages. Donc on a déjà parlé de la possibilité de garder les allocations familiales et d'ouvrir le droit aux allocations d'insertion. Mais l'inscription chez Actiris a aussi d'autres avantages. Donc ça permet d'obtenir des aides, des coachings pour sa recherche d'emploi. Ça donne droit par exemple à des droits, à des chèques pour une formation en langue ou en informatique. Ça permet d'accéder à certaines formations professionnelles. Et aussi, ça donne accès à certains plans d'embauche, donc des aides pour trouver un emploi. Donc ça n'a pas vraiment de désavantages. C'est pourquoi on conseille toujours de s'inscrire tout de suite après l'abandon des études, sauf si on a déjà la chance d'avoir trouvé un travail à temps plein. Il faut penser aussi à se réinscrire. Si jamais on est inscrit chez Actiris, on trouve un travail à temps plein, il faut se réinscrire dès que ce travail prend fin. Et si on travaille à temps partiel, on peut aussi rester inscrit pour que les jours où on ne travaille pas comptent dans le stage. Et j'ajoute aussi qu'il vaut mieux s'inscrire le plus vite possible parce que pour avoir droit aux allocations d'insertion, il faut finir le stage et introduire la demande d'allocation avant ses 25 ans.
Ok, donc si je résume bien, quand on s'inscrit chez Actiris après ses études, on a alors le statut de demandeur d'emploi en stage d'insertion et on peut garder son droit aux allocations familiales tant qu'on n'a pas le droit aux allocations d'insertion.
C'est tout à fait ça, avec toujours cette limite qu'on doit travailler maximum 240 heures par trimestre. Si on travaille plus, on perd le droit aux allocations familiales juste pour ce trimestre-là.
Très bien, ça semble plus clair. Du coup, je propose de passer au point suivant, qui est aussi une question qu'on nous pose très souvent. À savoir, est-il possible de continuer à travailler comme étudiant quand on arrête ou on abandonne ses études ?
Alors en effet, Juliette, on nous la pose très 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 souvent cette question. Et la réponse en fait, elle est très simple, à savoir non. Quand on n'étudie plus, on n'a plus le droit de travailler comme étudiant. En fait, la loi, elle prévoit que peut travailler comme étudiant la personne pour qui étudier est l'activité principale et travailler une activité accessoire. Ça signifie donc qu'à partir du moment où on ne suit plus d'études, où on ne va plus en cours, où on ne travaille plus sur des travaux ou un mémoire, on ne peut plus signer de contrat étudiant. Alors, grosse précision aussi, le fait de rester inscrit à l'université ou la haute école n'est pas suffisant à lui seul que pour pouvoir signer un contrat étudiant. On a parfois certains jeunes qui nous disent qu'ils vont s'inscrire mais qu'ils n'iront pas en cours et comme ça ils peuvent travailler comme étudiants et voilà, mettre un peu d'argent de côté pendant cette période. Ce n'est pas légal. À partir du moment où, en pratique, on ne suit plus d'études, on ne peut plus signer de contrat étudiant.
Alors, très bien, mais par exemple, un étudiant qui aurait signé un contrat étudiant en septembre, qui abandonne ses études en cours d'année, comment il fait ? Il ne peut plus travailler comme étudiant ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il rompt son contrat ?
Oui, malheureusement, c'est bien ça. Donc, dès qu'il abandonne, il ne peut plus bénéficier de l'avantage pour le job étudiant, qui, rappelons-le, est un avantage sur les cotisations sociales. Et donc, à partir du moment où il ne va plus en cours, où il arrête, où il se désinscrit, soit il démissionne, soit l'employeur doit transformer le contrat étudiant en contrat ordinaire. Donc parfois c'est vrai qu'on entend des étudiants dire qu'ils ne vont pas se désinscrire pour pouvoir continuer leur job, mais en fait à nouveau c'est pas vraiment légal.
Ok, donc tu disais dans ton intro qu'un jeune de 26 ans pouvait jobber comme étudiant. Donc il n'y a pas de condition d'âge pour le job étudiant.
Non, il y a vraiment uniquement une question d'études. Donc les étudiants qui suivent de manière effective des études de niveau supérieur ou secondaire, mais donc qui vont en cours du jour, eux ils sont autorisés à jobber comme étudiants. Par contre, pour tout ce qui est formation à horaires réduits ou en cours du soir, je pense par exemple à la promotion sociale, mais il faudra alors demander l'autorisation du contrôle des lois sociales. Et c'est ce service qui décidera si l'activité principale du jeune, ben, ce sont bien ses études et non pas le travail. Typiquement, ben, suivre des cours de langue qui nous prennent 2 jours de cours par semaine, ça ne permettra pas de signer un contrat étudiant à côté. Et alors, dernière chose importante par rapport au job étudiant, le statut de demandeur d'emploi inscrit chez Actiris n'est jamais compatible avec le job étudiant. Donc c'est ce statut dont Dayuma parlait juste avant, donc le fait de s'inscrire après les études. Mais donc le jeune qui s'inscrit en stage insertion chez Actiris, il ne pourra pas jobber comme étudiant, même s'il reprend par exemple une formation professionnelle pendant son stage insertion.
D'accord. Dayuma, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, je crois que tu ne l'as pas dit, mais il y a une petite exception, une petite ambiguïté. Si tu termines tes études en juin...
Oui, oui, tout à fait.
L'ONSS et l'ONEM aussi, qui décident de donner les allocations de chômage, autorisent ou acceptent que les étudiants continuent à travailler comme étudiants jusqu'à la fin des vacances, même s'ils ont terminé, ils ont réussi leurs études en juin. Donc ça, c'est la petite exception. Il y a un peu une controverse entre le SPF Emploi, qui pense que dès qu'on termine ses études, on ne peut plus travailler comme étudiant, mais une autre institution comme l'ONSS, qui s'occupe aussi des jobs étudiants, accepte qu'on continue à travailler comme étudiant jusqu'à la fin des vacances.
Oui, tout
donc,
à fait.
Donc le flou profite aux étudiants, quoi. On va dire que...
En général,
oui. Oui.
Okay. Pour rappel aussi, donc on parlait de l'autorisation du contrôle des lois sociales. Ça, c'est un organisme, on peut téléphoner facilement, demander
alors,
des infos. Ils ne vont pas vous contrôler ni rien du tout. Il ne faut pas hésiter à les appeler pour poser des questions. Hein.
Et
ça
nous,
s'appelle contrôle, mais ils ne vont pas vous... Voilà.
Mais, et nous, on dirait même, au-delà d'appeler, si c'est pour ce type de questions, même envoyer un mail. Comme ça, on a une preuve écrite. Dans le cas où le contrôle des lois sociales nous autorise à jobber comme étudiant, ben, on a la preuve écrite que c'est bien le cas.
Le contrôle des lois sociales, c'est l'inspection du travail qui est au sein du SPF Emploi. Donc, ils ont une mission de contrôle sur le terrain pour vérifier que les employeurs respectent le droit social, mais on peut aussi les appeler pour poser des questions générales sans déposer une plainte ou sans qu'il y ait un contrôle sur le terrain.
Oui, ils donnent de l'info aussi.
Tout à fait.
Ok, alors merci pour toutes ces explications. On va passer maintenant à la question suivante, qui est celle de la mutuelle. Donc je me tourne à nouveau vers toi, Dayuma, pour te demander si la fin des études, ça a un impact au niveau de la mutuelle. Quand un jeune arrête ses études, on se demande parfois s'il doit s'inscrire personnellement à la mutuelle ou s'il peut rester inscrit à celle de ses parents comme enfant à charge.
Ouais, tout d'abord, un petit rappel. J'aime bien faire des rappels pour, pour les jeunes qui nous écoutent. La mutuelle, c'est un organisme de sécurité sociale en charge de l'assurance soins de santé. Cette assurance vous permet de payer les soins de santé moins chers, d'être remboursé, par exemple, quand on va chez un médecin. Pour les travailleurs, elle permet aussi d'avoir un revenu de remplacement en cas de maladie. Donc, pour bénéficier de ces interventions de la mutuelle, il y a 2 types d'affiliation. Soit on s'inscrit comme titulaire, ça veut dire qu'on cotise personnellement à l'assurance soins de santé et on s'assure à son propre nom, donc en général les travailleurs, en cotisant par leur salaire, sont titulaires. Soit on s'inscrit comme personne à charge d'un titulaire et on est assuré par les soins de santé via l'assurance de cette autre personne, de ce titulaire auquel on est à charge. Les enfants peuvent bénéficier d'un statut particulier qui est celui du statut d'enfant à charge. Ce statut leur permet de rester assurés par leurs parents jusqu'à l'âge de 25 ans, même s'ils n'habitent plus avec eux et tant qu'ils n'ont pas suffisamment de revenus que pour pouvoir cotiser à l'assurance soins de santé par eux-mêmes. Donc le fait de se désinscrire de l'école, de terminer ses études, ne signifie pas qu'il faut directement s'inscrire comme titulaire à la mutuelle. Par contre, il faudra le faire à partir du moment où le jeune atteint un certain montant de revenus parce qu'il gagne de l'argent, ou alors s'il ouvre par exemple le droit aux allocations familiales. Allocations d'insertion. Les jeunes de plus de 25 ans, étudiants ou pas, ne peuvent plus avoir le statut d'enfant à charge à la mutuelle. Soit ils s'inscrivent comme titulaires, soit ils peuvent parfois avoir droit à un autre statut de personne à charge où les conditions sont plus strictes en fait que celui d'enfant à charge. Donc si vous avez 25 ans, mais pas encore de revenus, pas de panique, il faut en discuter avec sa mutuelle. Il y a différentes possibilités qu'on ne va pas détailler ici, mais qui peuvent permettre de s'affilier à petit prix ou même gratuitement, soit en tant que titulaire, soit en tant que personne à charge. Sachez que normalement, quand vous commencez à travailler ou quand vous fêtez votre 25e anniversaire, la mutuelle vous écrit d'office pour vous informer que vous devez vous inscrire comme titulaire.
Et bien voilà qui répond à la question. Donc si je résume, études et mutuelles ne sont pas vraiment liées, c'est plutôt une question d'âge et de revenus. Alors on va continuer d'analyser tout ça, mais on va faire d'abord une petite pause musicale. On va écouter Hold On de Alabama Shakes et on se retrouve tout de suite après sur Radio Panique 105.4.
Thank you. gotta hold on.
On écoutait donc Hold On de Alabama Shake. Vous écoutez toujours la Jury Click sur Radio Panic 105.4. Alors le thème de l'émission, c'est toujours qu'est-ce qui se passe quand je ne suis plus étudiant. Et on a déjà pris un peu le temps de voir l'impact qu'avait l'abandon des études sur les allocations familiales, le job étudiant et le statut du jeune à la mutuelle. On va passer maintenant à un point suivant qui n'est pas négligeable et qui concerne les étudiants qui bénéficient de l'aide au CPS. Alors ces étudiants dépendent généralement d'une cellule spécifique du CPS, la cellule jeune ou étudiante, et signent un contrat avec le CPS qui conditionne l'aide qu'ils reçoivent. Bon, du coup la question se pose de savoir qu'est-ce qui se passe pour les étudiants qui arrêtent ? Est-ce qu'ils dépendent encore de cette cellule spéciale ? Est-ce qu'ils peuvent continuer à percevoir de l'aide alors qu'ils ne sont plus étudiants, Mélanie ?
Alors, en effet, comme tu l'as très bien précisé, les étudiants ont un statut spécifique au niveau du CPAS. Ils sont suivis par la cellule étudiante et ils signent un PIS, un projet individuel d'intégration sociale, qui est en fait un contrat entre le jeune et le CPAS qui précise les règles que le jeune doit suivre pour pouvoir recevoir l'aide financière du CPAS. Et donc dans ce PIS, le parcours d'études de l'étudiant, il est clarifié. Le CPAS et le jeune se mettent d'accord sur le projet et le jeune est censé suivre le parcours qui a été validé par son CPAS. Par exemple, le jeune explique qu'il souhaite entamer des études de 3 ans en marketing. Eh bien, si son CPAS est d'accord avec ce projet, il indiquera dans le PIS, donc le contrat, que le jeune a droit au CPAS durant ses 3 années d'études en marketing. Mais du coup, l'échec, l'arrêt ou l'abandon d'études a inévitablement des conséquences sur le droit au CPS, comme en fait le jeune s'écarte de son contrat et le CPS est alors en droit de remettre en question l'aide qu'il apporte au jeune.
Bah, très bien, mais alors qu'est-ce qu'on conseille au jeune qui souhaite modifier son parcours parce que par exemple il a mal choisi son orientation, ce qui peut en réalité arriver à tout le monde, qu'on soit au CPS ou non.
Bien, notre conseil, c'est d'en parler le plus rapidement possible avec son agent d'insertion. Donc le jeune est généralement suivi par un agent d'insertion et un assistant social. Parfois, ça peut être la même personne selon les CPAS. Et donc l'agent d'insertion, il accompagne le jeune dans ses projets et valide son parcours vers une insertion professionnelle. Donc le jeune qui souhaite se réorienter et changer d'études ou de formation, bien il doit en parler à son agent d'insertion. Son agent analysera sa demande et émettra un avis qu'il transférera à l'assistant social. L'assistant social, quant à lui, c'est la personne qui présentera le dossier du jeune au Conseil d'action sociale ou au Comité spécial du service social qui lui aura le dernier mot. Mais donc, il est clair que le nouveau projet du jeune a plus de chances d'être validé si le jeune a le soutien de son agent d'insertion et donc, par extension, son assistant social. Ici, à ce niveau, on peut déjà donner 2 conseils en plus. Tout d'abord, et c'est très important, tant que le jeune n'a pas rencontré son agent d'insertion et n'a donc pas parlé de son changement de projet, il doit vraiment faire attention de suivre ce qui est indiqué dans son PIS. On déconseillera à un jeune de se désinscrire avant d'avoir parlé de ses plans au CPS, parce qu'il risquerait alors d'être sanctionné et éventuellement de perdre l'aide. Ensuite, on va conseiller aux jeunes qui souhaitent changer de projet de présenter un projet construit à son agent d'insertion. Donc, par exemple, si le jeune s'est déjà renseigné auprès d'un conseiller en orientation, qu'il a déjà fait des recherches d'établissement, qu'il s'est renseigné sur des formations qui pourraient l'aider dans son parcours, ce sont beaucoup d'arguments solides pour donner du poids à sa demande et essayer de convaincre l'agent d'insertion de le soutenir dans sa demande. On déconseillera typiquement à un jeune de se présenter en annonçant un arrêt d'études, mais pas de plan B derrière. Dans ce cas, il y a de grandes chances que le CPAS demande tout simplement au jeune de s'inscrire chez Actiris et de rechercher un emploi. Donc le jeune qui va sans projet, donc le CPAS lui demandera de s'inscrire chez Actiris et ce jeune, il n'aura plus l'assurance que le CPAS acceptera un autre projet d'études par la suite.
Ok, et donc qu'est-ce qui se passe justement si par exemple un jeune décide de ne plus suivre d'études ou de formation ?
Bien dans ce cas, le CPAS lui demandera de s'inscrire comme demandeur d'emploi chez Actiris et son dossier sera transmis à une autre cellule du CPAS, la cellule dédiée justement aux chercheurs d'emploi. Alors, petite précision ici, de manière générale, un citoyen doit toujours s'adresser au CPAS de la commune dans laquelle il est domicilié. On ne choisit donc pas son CPAS. Il y a une seule exception, ce sont pour les étudiants. Un CPAS reste en charge du dossier d'un étudiant durant toute la durée de ses études, et ce, même si l'étudiant déménage et se domicilie ailleurs entre-temps. Précisons que c'est le cas lorsque l'étudiant a moins de 25 ans et qu'il introduit sa première demande au CPAS alors qu'il est déjà étudiant. Prenons un exemple, un étudiant de moins de 25 ans qui aurait fait une première demande au CPAS d'Ixelles et qui déménage à Schaerbeek alors qu'il est toujours étudiant, eh bien Ixelles reste en charge de son dossier, même si l'étudiant s'est domicilié à Schaerbeek entre-temps. Je parle de cela par contre parce que c'est important pour les étudiants qui sont dans ce cas et qui arrêtent leurs études. Dès qu'ils arrêtent, eh bien ce mécanisme s'interrompt et le jeune doit alors s'adresser au CPAS de la commune dans laquelle il est domicilié. Pour reprendre mon exemple, l'étudiant qui est suivi par le CPAS d'Ixelles mais qui est domicilié à Schaerbeek, le jour où il termine ou arrête ses études, il doit alors réintroduire une nouvelle demande à Schaerbeek. Il n'y a pas de transfert interne entre deux CPAS. Donc c'est vraiment au jeune qui arrête de refaire les démarches pour redemander l'aide dans la commune où il est domicilié.
Très bien, bah merci Mel pour ce point CPS. Avant de passer au dernier point, je vous rappelle que vous pouvez toujours joindre les informateurs d'InfoJeunes Bruxelles au 02 514 41 11 ou sur notre site ijbxl.be ou sur l'Insta ou sur le Facebook, etc. etc. On fait tout sauf la télépathie, donc n'hésitez pas. En tout cas, on est là pour ça, pour répondre justement aux situations qui peuvent être parfois un petit peu compliquées. Alors, on va passer maintenant au dernier point, enfin, premier point de cette, dernier point de cette partie. Est-ce que le fait de ne plus être étudiant a un impact au niveau fiscal, donc au niveau des impôts, Dayuma ?
Globalement, non, mais il va falloir nuancer. Donc, toute personne majeure est obligée d'introduire une déclaration de revenus chaque année, qu'on ait des revenus ou pas, donc au mois de juin, c'est la déclaration annuelle, tout le monde doit la faire. Même s'il n'y a rien à déclarer, on doit introduire une déclaration chaque année, donc étudiant ou pas. Le montant des impôts à payer n'est pas impacté par le fait d'être étudiant ou pas. Ce que je veux dire par là, c'est que le taux d'imposition ne change pas si on est étudiant. Le taux d'imposition va dépendre éventuellement du type de revenu, mais surtout du montant des revenus qu'on a perçus. Et il faut savoir que le job étudiant est imposé comme un salaire ordinaire. Ce qui peut par contre être impacté, c'est les impôts des parents. Si le jeune n'a pas de revenus et qu'il est toujours domicilié chez ses parents, il peut continuer à être fiscalement à charge de ses parents sans limite d'âge, et qu'il soit étudiant ou pas. Les parents peuvent donc potentiellement garder un avantage fiscal d'avoir un ou plusieurs enfants à charge, et donc concrètement continuer à payer un petit peu moins d'impôts. Cependant, c'est ici qu'il faut nuancer. Pour garder son enfant à charge au niveau des impôts et conserver cet avantage, les revenus de l'enfant ne peuvent dépasser certains plafonds de revenus. Le plafond de revenus autorisé pour rester à charge est en fait plus élevé si les revenus du jeune proviennent d'un job étudiant. Il y a 2190 euros de salaire étudiant qui n'est pas compté dans ce calcul-là, qui est, on dit qu'il est immunisé. Donc concrètement, ça veut dire que si le jeune est étudiant et travaille comme jobiste, il peut gagner un peu plus en restant à charge de ses parents fiscalement, alors que le jeune qui n'est plus étudiant et il a un contrat de travail classique, il va plus rapidement dépasser le plafond de revenus autorisé et donc plus rapidement perdre ce statut d'enfant à charge au niveau fiscal. Pour prendre un exemple concret, un jeune qui vit chez ses parents qui sont mariés peut rester à charge fiscalement de ses parents pour l'année 2022 s'il a gagné en 2022 maximum 4362 euros bruts. Ce montant va passer à 7272 euros bruts si ses revenus proviennent d'un job étudiant.
Ok, merci Dayou. Tu clôtures là la première partie de l'émission. Donc on a parcouru point par point tout ce qui change en termes de droits sociaux et du travail pour le jeune qui n'est plus aux études et qui n'a donc plus de statut étudiant. On va continuer en faisant le point sur l'impact d'un abandon d'études en cours d'année sur les études en elles-mêmes. C'est-à-dire l'impact d'un abandon sur la finançabilité, sujet qu'on a traité régulièrement et sur lequel vous pourrez trouver plein d'informations sur notre site, et également sur le paiement du Minerval. Donc on va aussi parler des étudiants qui ont reçu une bourse d'études mais qui arrêtent. Avant, je vous propose de faire un petit break en écoutant justement le morceau « Pause » de Eddie De Preto et Isult. A tout de suite.
Je ne veux pas y faire face. Je préfère me fuir jusqu'à ce que je m'efface. Je préfère ne rien dire. Je préfère oublier. Je préfère me mentir. Être une chose qu'une chose. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi, jamais faiblir. Fais-tu, fais quoi pour pas périr. On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes
larmes s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher. Un fond de tristesse qui va me die. Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille? Une dernière larme, je me relève toujours fier. Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Et je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête. Je ne dors plus, je ne bois plus, et voilà que mon cœur part en sucette. J'ai tout fait pour rien lâcher, mais tu sais, toi tu connais comment ouais, je suis épuisé. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les penser. Pose sur mon épaule tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher. On nous dit tenir toujours sourire. Pour qui, pourquoi jamais faiblir? Si tu fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir? Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les penser. Pose sur mon épaule tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
Vous écoutez toujours la Jury Clique sur Radio Panique. On vient d'écouter Pause d'Eddie de Préto et Iseult. Pour rappel quand même, puisqu'on vient de voir le dernier point était assez technique, les impôts. Je vous rappelle qu'il y a un article sur notre site ijbxl.be qui reprend un peu tous ces éléments-là. De mémoire, l'article s'appelle « J'abandonne mes études en cours d'année. Quel impact ?»
Exactement.
C'est ça. Voilà. Vous pourrez y retrouver les informations un peu plus techniques qui ne sont pas toujours évidentes à maîtriser.
Et retrouver l'émission en podcast aussi sur YouTube.
Tout à fait.
Tout à fait. Merci. Merci Dayou. Pour la deuxième partie, on va aborder l'impact d'un abandon d'études sur les études en elles-mêmes. Parce qu'on va le voir, abandonner ses études en cours d'année, ça peut avoir des conséquences sur son parcours. Et ce, à plusieurs niveaux. Alors, je me tourne vers toi, Mel. Est-ce que tu peux nous donner ici toutes les précisions?
Mais donc, oui, comme tu l'as précisé, donc pour ces étudiants du supérieur, le fait d'abandonner ces études en cours d'année, bien, ça aura un impact sur leur parcours scolaire, et ce, à plusieurs niveaux, à savoir sur la finançabilité et sur le paiement du Minerval. Et alors, on verra que pour les étudiants boursiers, abandonner ces études n'est pas sans conséquences non plus.
Ok, alors on va commencer tout de suite avec le point qui concerne la finançabilité.
Vous le savez tous et toutes, bien entendu, pour s'inscrire dans l'enseignement supérieur, en dehors de l'enseignement de promotion sociale, il faut être finançable. Les étudiants qui ne sont pas finançables ne peuvent pas s'inscrire à moins de demander une autorisation auprès de l'établissement d'enseignement supérieur où ils souhaitent s'inscrire. Aujourd'hui, on ne va pas examiner toutes les règles de finançabilité, mais seulement les conséquences si l'étudiant arrête ses études en cours d'année académique. Et en fait, tout dépend en réalité d'une date.
Quelle est cette date ?
Eh bien, c'est le 1er décembre. Si l'étudiant arrête, et par arrêter, on parle de se désinscrire avant le 1er décembre de l'année académique concernée, son année ne sera pas prise en compte. Tout se passe donc comme s'il n'avait jamais été inscrit, et donc, du point de vue de la finançabilité, il n'y a pas non plus d'inscription. Par contre, s'il arrête ses études, et on parle toujours ici de se désinscrire à partir du 1er décembre de l'année académique concernée, eh bien, son année, elle est prise en compte. Dans ce cas-là, les conséquences sont plus problématiques. L'étudiant sera indiqué comme absent aux évaluations qu'il n'a pas présentées. Or, cela équivaut en pratique à une note de zéro. D'ailleurs, il existe parfois une procédure d'inscription aux évaluations et même s'il n'a pas suivi la procédure et qu'il ne s'est pas inscrit, le résultat sera le même, une note de zéro et le fait que les crédits ne sont pas acquis.
Donc si l'étudiant se désinscrit après le 30 novembre, donc à partir du 1er décembre, son inscription et ses crédits sont comptabilisés pour le calcul de finançabilité.
C'est bien ça. Et donc, pour le deuxième point, c'est-à-dire le paiement des droits d'inscription ou le Minerval, eh bien, la date est la même. Si l'étudiant se désinscrit avant le 1er décembre de l'année académique concernée, l'établissement d'enseignement supérieur a uniquement le droit de réclamer ou de conserver le montant de l'acompte, à savoir 50 euros.
Alors qu'est-ce qu'on entend par réclamer ou conserver ?
Ben oui, donc l'établissement pourra réclamer ce montant si l'étudiant a introduit, a suivi correctement et a finalisé la procédure d'inscription, à ceci près qu'il n'a pas payé les 50 euros. Dans ce cas, on rappelle une règle qui n'est pas toujours respectée. L'étudiant ne sera pas considéré comme inscrit pour l'année académique concernée, mais par contre, il sera redevable tout de même de ce montant de 50 euros.
Et si jamais l'étudiant décide de ne pas payer ?
Bien, dans ce cas-là, l'établissement pourra refuser de lui délivrer un document dont il aura besoin pour se réinscrire l'année académique suivante, à savoir une attestation d'apurement de dette.
Ok, donc vaut mieux payer. Pourquoi parle-t-on alors de conserver ce montant ?
Bien, tout simplement parce qu'on envisage une autre hypothèse, celle où l'étudiant s'est valablement inscrit et a également payé le montant de 50 euros. Dans ce cas, l'établissement aura simplement le droit de conserver ce montant.
Ok, mais si l'étudiant, par exemple, se désinscrit juste un jour plus tard, c'est-à-dire le 1er décembre.
Si l'étudiant se désinscrit à partir du 1er décembre de l'année académique concernée, l'établissement d'enseignement pourra réclamer la totalité des droits d'inscription, c'est-à-dire l'entièreté du Minerval. D'ailleurs, pour les étudiants hors Union européenne qui ne sont pas considérés comme assimilés, cela concerne également le droit d'inscription spécifique de plusieurs milliers d'euros.
Alors à nouveau, si l'étudiant ne paye pas, les conséquences se...
Bien, ici encore, le montant reste dû à l'établissement et donc l'établissement ne délivrera pas d'attestation d'apurement de dette tant que l'étudiant n'a pas apuré cette dette. Or, on l'a dit, ce document est nécessaire pour se réinscrire dans le même établissement ou un autre établissement de la communauté française.
Donc ça peut empêcher complètement de terminer ses études.
Deux remarques encore. D'une part, ce document n'est pas nécessaire pour s'inscrire dans l'enseignement de promotion sociale. Cependant, l'enjeu n'est pas seulement celui de l'attestation d'apurement de dette. Il s'agit d'une créance, comme n'importe quelle autre, par exemple une facture qui n'aurait pas été payée, et l'établissement d'enseignement supérieur dispose en principe d'un délai de 10 ans pour la récupérer. Enfin, quelle que soit la date, il faut encore rappeler qu'un étudiant qui a introduit une demande d'allocation d'études et qui a transmis la preuve de cette demande à son établissement d'enseignement supérieur ne devra pas payer de droits d'inscription, qu'il s'agisse de l'acompte de 50 euros ou du solde, tant qu'il n'a pas reçu de réponse de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, dès qu'il obtient une réponse, deux hypothèses sont possibles. Soit il n'obtient pas son allocation d'études et il devra alors payer les montants en fonction de la date à laquelle il arrête ses études. À ce sujet, il disposera d'un délai de 30 jours à partir de la date à laquelle il reçoit le courrier de refus pour payer ce montant et il devra le payer même s'il fait un recours contre la décision négative du service des allocations d'études.
Et s'il obtient son allocation d'études ?
Eh bien, dans ce cas, il ne devra rien payer, mais s'il arrête ses études, il aura alors peut-être un problème avec les allocations d'études.
Eh bien, c'est précisément la troisième question que nous allons aborder.
Bien oui, tout à fait, Juliette. En cas d'abandon d'études, tout est cette fois-ci encore une question de date et la matière a été modifiée à partir de l'année académique 2022-2023, cette année donc. Pour résumer, si l'abandon a lieu avant le 1er janvier de l'année académique concernée, 80% du montant qui a été versé pourra être réclamé. Par contre, si l'abandon a eu lieu à partir du 1er janvier de cette année académique, eh bien dans ce cas, c'est 50% du montant attribué que la Fédération Wallonie-Bruxelles pourra réclamer.
Alors, la bourse, c'est d'une part un montant qui est versé une fois, et d'autre part, le fait que les droits d'inscription ne sont pas payés. Est-ce qu'il faut aussi rembourser les droits d'inscription ?
Alors non, seul le montant qui a été payé devra être remboursé.
Et est-ce qu'il y a des motifs pour lesquels on peut éviter le remboursement ? Par exemple, parce que l'étudiant s'est désinscrit en raison d'une maladie.
Alors oui, tout à fait. Il existe certains cas qui concernent soit l'étudiant qui a bénéficié de la bourse, soit une personne dont il dépend, c'est-à-dire une personne qui a l'étudiant à sa charge fiscalement ou qui l'entretient. Par exemple, parce qu'il s'agit du chef de famille et qu'ils sont sur la même composition de ménage ou parce qu'une personne lui verse une aide alimentaire. Alors, ces cas sont les suivants. Soit le décès ou la maladie d'une de ces personnes et pour autant que ce soit une maladie qui ne permette pas d'achever l'année académique, soit la perte de l'emploi ou un chômage d'au moins 30 jours d'une de ces personnes. Dans les autres cas, le service des allocations d'études dispose d'un délai de 5 ans pour pouvoir demander le remboursement de l'allocation d'études.
Eh ben, merci Mel, donc on voit que c'est pas sans conséquence d'abandonner ses études et qu'il peut y avoir un impact, donc c'est bien de se renseigner avant. Et notamment par rapport aux dates. Alors je vous rappelle que toutes ces informations sont reprises sur le site tjbxl.be et qu'en cas de questions par rapport à votre situation personnelle, notre équipe est toujours là pour vous répondre. Alors c'est gratuit et c'est anonyme. Hein. On est aussi présent, je le disais tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook et même TikTok. C'est vrai, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure.
Et oui.
Alors, on va faire une nouvelle petite pause avant de passer à la dernière partie de l'émission où on discutera avec Anne, qui est conseillère en orientation chez Infor Jeunes Bruxelles et qui nous parlera de toutes les alternatives qui existent pour les jeunes qui ne font pas ou plus d'études. On va écouter pour l'instant Pongo avec le morceau Kuzola. À tout de suite.
Sou a dama da zona rabuda que manda no requebrar. A criola que goia te ama, te beija, faz viajar. Que manda não se quebrar. A crioula que fui a te ama, te beija pra viajar.
Voilà, c'était donc le morceau Kuzola du groupe Pongo. Alors, vous écoutez toujours la Juriclic sur Radio Panique 105.4 avec une émission dont le thème est « Qu'est-ce que je peux faire quand je ne suis plus étudiant ?» En tout cas, qu'est-ce qui se passe quand j'arrête ou j'abandonne mes études ? Alors là, on a un peu traité les questions sur un mode plutôt juridique. Hein. On a parlé des droits aux allocations familiales, mutuelles, les impôts, etc. On a parlé de l'impact sur les études. Maintenant, on va discuter avec Anne, qui, je rappelle, est conseillère en orientation chez Infor Jeunes Bruxelles, plutôt d'un aspect, comment dire, un aspect qui est plus puis au bien-être et à l'orientation. Donc Anne, première question, qu'est-ce que tu conseilles, toi, aux jeunes que tu reçois et qui arrêtent leurs études ?
Eh bien, dans un premier temps, je conseille à tout jeune de mettre des mots sur ce qui se passe et aussi de pouvoir accueillir. Car effectivement, arrêter ses études ou ne plus être étudiant, c'est prendre la décision d'arrêter finalement un projet en cours. Et ce n'est pas toujours facile, car rappelons quand même que le jeune, il n'est pas habitué à prendre des décisions. D'où la nécessité d'accueillir ce qui est là avec beaucoup d'authenticité et de se dire finalement, ben, voilà, comment est-ce que je me sens ? Quelles sont les émotions ? Est-ce que je me sens triste ? Je peux parfois aussi me sentir coupable, hein, parce que je me suis investie dans quelque chose que j'arrête en plein milieu. Je peux me sentir aussi en insécurité. J'ai peut-être la peur d'échouer qui va remonter. Ou bien aussi, ben, forcément, je me sens stressée parce que finalement, je ne sais plus trop où je vais. Donc, dans un premier temps, vraiment se dire, on va relâcher la pression. Effectivement, le jeune peut se sentir en décalage, il peut aussi se sentir coupable, exclu par rapport aux autres étudiants qui sont toujours dans leur cursus ou même par rapport à leurs parents, son entourage qui ne comprend pas toujours ce qui se passe. Donc là, à nouveau, le conseil serait de faire le point seul avec une personne ou aussi s'entourer d'une personne de confiance, un proche ou bien entendu un conseiller en orientation. Car dans notre service, c'est une des premières choses qu'on va faire quand on rencontre un jeune qui a arrêté ses études ou pour qui ça fait longtemps qu'il n'est plus dans un projet, ben on va vraiment prendre le temps avec lui de faire le point et d'accueillir ce qu'il est pour comprendre ce qui se passe.
Très bien. Alors, au cours de différents entretiens que tu as au fil des années, est-ce que tu as des exemples à nous donner de causes récurrentes qui sont des causes pour lesquelles les jeunes arrêtent leurs études ?
Oui, il y en a des nombreuses. Hein. Il y a souvent trop d'écart finalement entre le choix, quand on en a réellement un, et finalement la réalité à laquelle le jeune va se confronter. Donc voilà, pour citer quelques exemples, ça peut être le jeune qui ne s'est pas posé beaucoup de questions et qui s'est lancé dans des études, et finalement bah, il se rend compte que ça ne lui convient pas. Ou bien un jeune qui était dans un domaine dans lequel il était à l'aise en secondaire, et au final bah, il se rend compte qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. Ou bien il peut aussi répondre aux attentes de la famille, ou suite même à une expérience positive, eh bien, il se rend compte qu'au final, ça ne l'intéresse pas. Et puis, on rencontre beaucoup de jeunes aussi pour qui le bagage scolaire n'est pas suffisant et qu'ils n'ont pas été bien préparés pour suivre les cours. J'en parlerai plus tard, car il y a beaucoup de pistes, au fait, hein, pour justement remédier à cette question-là. Alors, la filière est aussi importante. Et ça, les jeunes, parfois, ne se rendent pas compte que finalement, un choix de filière, ça a aussi un impact. Car finalement, étudier, c'est aussi être dans un contexte particulier. Donc, par exemple, l'université, on sait que l'aspect analyse et recherche est très développé, au contraire de la haute école, où là, on est dans des plus petites classes, il y a un aspect qui est beaucoup plus concret dès le départ, avec des stages sur le terrain, donc le jeune est beaucoup plus en lien avec la réalité. Ou le jeune peut aussi avoir une situation parfois psychosociale difficile et qui a des conséquences sur sa vie, qui fait que, voilà, il n'a pas la tête aux études. Alors, je rappellerai aussi que finalement, derrière les études, il y a quand même un métier. Un métier, c'est aussi avoir parfois une opinion toute faite sur quelque chose. Donc, c'est aussi questionner finalement les stéréotypes d'un métier. Et ça, on n'y pense pas toujours, en fait, quand on entreprend des études.
Alors, on le voit, il y a vraiment, quand on creuse un peu, beaucoup de raisons pour lesquelles un jeune pourrait arrêter les études qu'il a entreprises. Comment on fait dans ces cas-là, une fois qu'on a abandonné ou décidé d'arrêter, pour avancer ?
Eh bien, moi, ce que je conseille ici aussi, c'est d'identifier quels sont les besoins à ce moment-là du jeune. Est-ce qu'il a besoin de se stabiliser, d'échanger, d'explorer, de s'informer, de retrouver du sens, peut-être de tester des choses, de partir à l'aventure, de retrouver finalement du plaisir, de l'élan et peut-être aussi finalement d'écouter cette petite flamme ressentie dans certaines activités et qui peut être une piste.
Ben, en parlant de pistes, justement, qu'est-ce que tu pourrais proposer comme différentes pistes ?
Alors ici, je vais peut-être juste rappeler que finalement, faire des études ou créer un projet, c'est quand même s'insérer dans le monde. Et c'est l'idée d'y trouver sa place en agissant, mais aussi en interagissant avec d'autres dans un contexte particulier. Donc vraiment, soyez curieux pour vraiment chercher ce qui vous convient. Par rapport à ces pistes ou ces besoins, si le jeune a le besoin de se sentir mieux, parce qu'il est peut-être dans une situation où il n'est pas bien, il est trop stressé, il dort mal, ou bien il est dans un contexte familial qui n'est pas au top, ou même par rapport à lui-même, bien c'est vraiment pas hésiter d'aller consulter un professionnel de la santé. Ça peut être un médecin de famille, mais ça peut aussi être un psychologue, un neuropsy, ou si le jeune s'est rendu compte qu'il avait peut-être un trouble, quelque chose qui était dans son chemin, là aussi, il y a moyen, bien entendu, d'aller consulter un logopède. Et l'autre chose aussi, Voilà, si, l'idée aussi, pour se sentir mieux, ben, pourquoi pas faire du sport, hein. On a d'ailleurs aussi un article sur notre site qui reprend tous les bons plans pour faire du sport moins cher.
Très bien, donc on voit que oui, il faut pas forcément attendre d'être dans une grosse, grosse souffrance psychique et ne pas hésiter à aller voir des professionnels de santé finalement qui peuvent déjà donner des pistes. Mais se sentir mieux, donc ça peut être aussi en créant des liens, non, en découvrant de nouvelles choses.
Oui, tout à fait, Juliette. Si le besoin est d'être aussi, d'être dans le concret, de tester, de comprendre, eh bien, on peut le faire en testant des métiers, des activités, en rencontrant des professionnels. Et donc ici, il y a par exemple le service citoyen qui permet donc aux jeunes, durant 6 mois, de tester justement une mission en lien avec un intérêt qu'ils ont dans différents domaines. Ça peut être la culture, la santé, le social, l'environnement. Ou il y a aussi solidarité. Et là, c'est la même idée. Ils vont tester en groupe dès l'âge de 16 ans. Différentes activités. Et donc là, il est utile de dire qu'à cette période-ci de l'année, le jeune peut encore rejoindre un de ces organismes aujourd'hui, puisqu'il y a différentes rentrées. Alors ça peut aussi être collaborer à un projet, prendre une année sabbatique. Et donc, on conseille toujours de la préparer, car il y a parfois des démarches à faire pour anticiper un départ, mais aussi parce que c'est quand même utile de bien définir ce qu'on va faire. Effectivement, une année sabbatique, ça peut être assez long. Et donc, on peut imaginer même faire différentes choses, par exemple voyager pour découvrir d'autres cultures, s'immerger dans un autre pays, apprendre une nouvelle langue, partir à l'aventure ou bien même collaborer à un projet humanitaire. Donc là, je citerai aussi le site mobilitéjeune.be. L'Union européenne développe de plus en plus aussi des programmes et des aides. Je citerai aussi Dynamo International qui propose différents projets, notamment de coopération, l'occasion alors pour le jeune justement d'apprendre en collaborant à un projet. Il y a aussi la plateforme de bénévolat, que ce soit en Belgique ou à l'international. Et donc, pour rappel, faire du bénévolat, c'est vraiment tester un métier, donc gratuitement, mais c'est vraiment une occasion dans un contexte de travail de s'engager vraiment aussi dans une cause qui peut tenir à cœur aux jeunes, rencontrer de nouvelles têtes et puis réellement être au cœur d'un métier. Alors, pour les jeunes qui sont aussi sensibles à l'écologie ou à tout ce qui est lié à la transition, il existe aussi un réseau En Transition en Belgique, donc ils ont un site internet qui propose des formations, mais aussi toutes sortes d'activités qui sont répertoriées sur une carte, donc dans différents endroits en Belgique. Je rappelle aussi que les communes développent pas mal de projets, et pour les jeunes qui ont envie de s'intégrer dans un projet plutôt citoyen, projet de quartier ou bien social, aider des personnes défavorisées, là aussi, il y a moyen de trouver beaucoup de choses. Et je rappellerai aussi que ici chez InfoJeunes, on a créé un guide de la citoyenneté qui est donc accessible sur notre site. Et puis, une autre idée, on rencontre dans le service d'orientation beaucoup de jeunes qui ont envie d'entreprendre. Et donc, il y a une plateforme sur Bruxelles vraiment destinée aux jeunes, qui est donc la plateforme Yet Brussels, et qui met en avant, en tout cas, de quoi il s'agit, quelles sont les étapes nécessaires, utiles pour monter son projet, ou au contraire, c'est un moyen pour collaborer, rejoindre un projet. Et donc là, le jeune peut trouver aussi des pistes pour justement tester et collaborer avec d'autres dans l'idée d'entreprendre.
On voit qu'en fait, abandonner ou interrompre ses études, ça ne veut pas dire rien faire. Là, on voit que tu nous as proposé quand même un tas de possibilités dont le jeune peut se saisir, en fait, pour savoir un peu, comprendre ce qui lui arrive et savoir peut-être ce qu'il veut faire plus tard. Même peut-être d'un point de vue professionnel, puisque donc on arrête les études et peut-être simplement le jeune a envie de se lancer dans le marché du travail, comment il peut faire alors ?
Alors là, soit il a envie de effectivement se lancer sur le marché de l'emploi et peut-être aussi de faire le point quand même aussi sur ce qu'il a envie de faire. Il existe différents groupes pour justement faire de la détermination de projet. Et donc il y a beaucoup de structures qui en proposent et là, ça permet aux jeunes d'une part de rencontrer d'autres jeunes qui se posent les mêmes questions lors de ces groupes de détermination. Eh bien, il y a des activités très variées et donc le jeune va vraiment pouvoir petit à petit cibler ce qui l'intéresse. Alors là, je citerai par exemple Artwork, qui est une structure ici à Bruxelles et qui propose différents programmes de détermination en fonction aussi de la situation du jeune. Donc, où est-ce qu'il se situe aujourd'hui? Quelles sont ses demandes? Il y a aussi différentes rentrées durant l'année. Et il propose aussi de tester des métiers dans le domaine de la régie, de la production artistique, de la réalisation d'événements. Puis je citerai aussi la structure Nice to Meet You. Alors la détermination ici de projet, donc dans l'idée de trouver un emploi, on peut bien sûr aussi le faire en individuel avec un conseiller en orientation. Il est toujours le bienvenu parce qu'on travaille sur l'orientation mais aussi sur le projet professionnel. Et puis bien entendu, on peut aussi faire de la recherche d'emploi et s'y préparer, donc en créant son CV, sa lettre de motivation et en s'informant aussi sur les plans d'embauche ou bien en passant par des contrats à durée déterminée ou via de l'intérim.
Oui, donc n'hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous avec notre service orientation. C'est vrai qu'il est assez populaire, donc c'est assez full. Mais quand même, n'hésitez pas à tenter d'appeler pour avoir un rendez-vous. On approche un peu de la fin de l'émission. Donc rapidement, Anne, une dernière question. Suite à toutes ces expériences, quand on a envie d'apprendre et de se préparer à la reprise d'études, par exemple, pas aller vers le travail, ouais. Comment on peut faire ?
Effectivement, on se prépare aux études supérieures. Ben, je pense que ça peut être une bonne chose. Donc, je rappellerai juste ici qu'on arrive dans la période février-mars. Et donc, déjà dans les écoles, il y a des journées portes ouvertes qui sont proposées. Il y a moyen d'assister à des cours ouverts. Et donc là, c'est vraiment un moment assez idéal pour se rendre compte vraiment sur le terrain. On peut aussi se préparer via de la remise à niveau. Donc, il y a différentes filières. Il y a la promotion sociale qui propose même durant l'année différentes rentrées. Il y a aussi des années préparatoires. C'est des 7e années en sciences, en maths ou même pour des études artistiques ou même pour se préparer aux études en médecine. Donc là, il y a quand même beaucoup de pistes. Et puis, pas oublier que la méthode de travail, c'est aussi quelque chose d'important. Donc, pour un jeune qui a peut-être déjà une expérience, qui a déjà fait des études et qui se rend compte que là, bah, il y a des choses à faire, à nouveau, donc lui conseiller d'identifier voilà, ce qui est dans son chemin. Est-ce que c'est une question de mémorisation, d'organisation? Et donc là, bah, je citerai par exemple Psycampus ou le pôle académique qui propose aussi des modules pour se préparer.
Merci Anne. Bon, on va devoir un petit peu accélérer la fin de l'émission. Mel avait quelques pistes à nous conseiller rapidement, des petites propositions d'Actiris.
C'était simplement, Anne m'avait posé la question du permis, les jeunes qui veulent apprendre le permis de conduire, mais Actiris en fait propose une formation en e-learning pour les demandeurs d'emploi, donc c'est toujours bon à savoir.
Bah voilà, un petit tuyau hein, quand on ne sait pas quoi faire. Alors Anne, une dernière question sur les métiers, mais vraiment rapidement, les filières et les études.
Oui, bah ce que je voulais surtout dire sur ce point-là, c'est qu'une autre chose à faire aussi quand on a envie de se préparer, bah c'est évidemment aller rechercher de l'information. Donc comprendre quelles sont les filières, quels sont les programmes et qu'est-ce qui est finalement le plus adapté en fonction de chacun. Quoi.
Très bien. Bah écoute, merci Anne pour tous ces conseils et ces explications.
Avec plaisir.
On en arrive maintenant à la conclusion. Mel, tu voulais aborder quelques points ?
Non, enfin, c'était à nouveau, c'est comme on doit faire aller rapidement, c'est simplement que nous, sur le terrain, c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de jeunes qui sont un peu anxieux de se dire « si je ne suis plus étudiant, qu'est-ce que je suis ?» Mais qu'en fait, il faut vraiment se déstresser par rapport à cette question-là parce que ce que le jeune va être, ben en fait, ça va simplement dépendre de ce qu'il va faire par la suite. Et comme Anne vient d'en parler, des choses qu'on peut faire à part les études, ben, y en a plein. Et voilà. Et s'ils ont des questions, ben, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. Et nous, on réglera en tout cas toutes les questions liées au droit ou appeler nos conseillers hein, pour faire un peu le point sur tout ça.
Eh ben merci, on finit donc sur une note positive. C'était donc la Juriclic sur Radio Panique 105.4. Restez à l'écoute de la radio pour le reste de la journée. Il y a plein d'émissions super à écouter. Et nous, on se retrouve le mois prochain. Au revoir.